Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio TerraZen, il est un peu plus de 21h et je vous souhaite la bienvenue dans cette histoire du soir, la dernière de l'année, en ce 28 juin 2018, et où nous allons ce soir parler de Maurice Magre. Qui donc est Maurice Magre, ce personnage complètement oublié dans l'histoire, si je puis dire, littéraire, ou l'histoire tout court, connue de quelques passionnés d'ésotérisme, de personnes qui s'intéressent à toute cette pléiade d'auteurs passionnés de paranormal et d'histoire, comment dire, que l'on qualifierait aujourd'hui d'occulte, occultiste depuis, comment dire, les origines, et auquel on retrouve autour de lui des gens comme le Sarpe et la Dent, on retrouve également des gens comme Gaïta également, hein, Fulcanelli, Chaleur de Lubitsch, enfin, tout ce qui a pu graviter autour de tous ces personnages, la génération en gros commence dans la deuxième partie du 19e siècle pour se terminer de façon graduelle au 20e siècle jusque dans les années 60-70. Alors Maurice Magre, qui est-ce? Il est référencé comme étant un écrivain, un poète, un dramaturge. Il est né en 1877, le 2 mars, à Toulouse. Les portes de l'Occitanie, les portes des Pyrénées, et des châteaux cathares. Il va beaucoup être question de Cathares ce soir. Et décédé le 11 décembre 1941 à Nice. Alors c'est un ardent défenseur de l'Occitanie, il a contribué à faire connaître le martyr des Cathares au XIIIe siècle, la fameuse croisade contre les Albigeois, et il a écrit pas mal de romans historiques sur le catharisme. Il s'inscrit dans la lignée de l'historien Napoléon Perrat, avec une histoire assez romancée, où on préfère les légendes à l'épopée romanesque à la vérité historique. Il a composé plusieurs poèmes dès l'âge de 14 ans. Ses premiers recueils de vers ont été publiés en 1895. Et durant la première partie de sa vie, il a mené une vie de bohème, de débauche et devint même opiomane. Il expérimenta toutes les jouissances de cette extase, n'est-ce pas? Et tant et si bien que en 1924, lors de la parution d'un de ses livres, Le Figaro écrira: Magre est un anarchiste, un individualiste, un sadique, un opiomane. Il a tous les défauts, c'est un très grand écrivain, il faut lire son œuvre. La seconde partie de sa vie, c'est là que ça nous intéresse un peu plus, puisqu'il s'intéresse à l'ésotérisme. Et il mène une quête spirituelle. Il devient martiniste. J'ai oublié tout à l'heure de citer Papus, le docteur Dancos, qui lui aussi fait partie de cette pléiade de personnages. Et il ne cesse pas pour autant de publier de nombreux ouvrages, comme en témoigne évidemment une liste importante de ses œuvres. En 1919, il découvrit la doctrine secrète, œuvre majeure de Madame Blavatsky, la cofondatrice de la Société théosophique. Et les ouvrages se succèdent. En 1935, il entreprend un voyage aux Indes afin de rencontrer Sri Aurobindo dans son ashram de Pondichéry. L'ashram de Pondichéry à la poursuite de la sagesse. Cet ouvrage en sortira. Et voilà à peu près ce que l'on peut dire. Également, un certain nombre d'ouvrages assez marquants existent autour de Maurice Magre, notamment La clé des choses cachées. La clé des choses cachées, donc un ouvrage sorti chez Charpentier, dont je regarde ici l'achevé d'imprimer. Ouvrage assez ancien néanmoins, Et cette clé des choses cachées est une sorte de petit bréviaire, hein, donc voilà, publié en 1935, 12 avril 1935, dans lequel Magre va évoquer différents sujets comme la sagesse des druides, l'héritage des albigeois, la question de Merlin l'Enchanteur, la légende du Graal, bien sûr, l'Arche d'Alliance, la mission des bohémiens, le secret du Bouddha et celui de Jésus. Toute une tradition ésotérique, historique, étudiée et qui nous montre, nous ramène un peu dans les sources même. Vous savez bien de ce qui a été ce roman à succès du début du XXIe siècle, qui a été le fameux, comme vous le savez, le fameux livre de Dan Brown, hein, le Da Vinci Code, hein, lui-même inspiré des ouvrages de Henry Lincoln. Hein, on en a déjà longuement parlé, je n'y reviens pas. Donc, en ce qui concerne Maurice Magre, voilà à peu près ce que on peut dire. Et ce qui se trouve au cœur, bien sûr, une bonne partie de son œuvre est consacrée à cette fameuse question des cathares. Et je crois que en cette fin du mois de juin, il est nécessaire de revenir assez rapidement sur cette croisade contre les albigeois, puisque une des théories de Maurice Magre, évidemment, sera de dire que tout simplement, ce sont les fameux cathares qui étaient dépositaires de la fameuse coupe dans laquelle le sang du Christ aurait été recueilli au moment de la Passion, le fameux Saint Graal. Et que, en fait, cette croisade contre les albigeois au XIIIe siècle, on va en parler dans un instant, finalement, n'aurait été qu'un prétexte pour que la papauté, la puissance papale, récupère cet artefact censé donner un pouvoir extrêmement important. On retrouvera cette thématique autour des Templiers au XIVe siècle, lors du siècle suivant, et de leur élimination, un peu accusés pour les mêmes raisons, de détenir peut-être là des artefacts donnant une puissance absolue. Je vous rappelle l'importance des reliques durant cette époque. N'oubliez pas que la Sainte-Chapelle, construite donc par Saint-Louis, l'a été pour abriter la fameuse relique qui est la couronne d'épines, qui existe toujours d'ailleurs. Le tout est de savoir si c'en est une vraie ou pas. Alors tout ça nous éloigne un peu de nos chers cathares. Qu'est-ce que c'est que ces cathares, que cette hérésie cathare? Eh bien, en fait, il s'agit d'une croyance qui s'est érigée un peu en réaction par rapport au développement du clergé tout puissant de l'Église montante des 10e, 11e, 12e siècles, autour de la puissance temporelle et spirituelle du pape. La théorie, le catharisme, attribuait l'Ancien Testament, par exemple, aux demiurges. Et en fait, la terre, tout simplement, où se traînent les hommes, était vraiment considérée comme étant le mal. Jésus, le Christ, était un pur esprit, et l'homme était en perpétuelle quête de vouloir s'émanciper de cette temporalité terrestre pour retrouver, les joies de l'esprit. Alors, tout cela, au moment où ça se développe, vers le XIIe siècle, ne pose pas vraiment de problème, sauf que, on va le voir, cela va considérablement se répandre. Le clergé cathare est composé de deux types d'individus. Alors d'abord, d'un côté, les fidèles, les bons hommes, les parfaits, que l'Inquisition appellera parfaits parce qu'on les considère comme des parfaits hérétiques. Et un clergé qui est extrêmement dépouillé et qui, en fait, en ayant reçu ce sacrement qu'est le consolament, qui est le seul sacrement administré par l'Église cathare, s'occupe évidemment de la prédication et de la diffusion de ce qu'on appellera plus tard de cette hérésie. Concentré essentiellement, on va le voir dans un instant, dans le sud-est, sud-est de l'Europe de l'époque, sud-est du Royaume de France, en plein début de constitution. Je vous rappelle que nous sommes sous les règnes de Saint-Louis, sous les règnes de Philippe Auguste, ensuite de Saint-Louis, je veux dire, de tout un tas de souverains, capétiens, valois surtout, qui vont, dans un premier temps, affermir ce fameux pouvoir royal. Donc c'est pas le moment, en effet, d'avoir, parmi les princes qui remettent l'hommage vassalique au roi, d'avoir des dissidences. Et la même chose se passe évidemment pour l'Église. L'Église qui, à cette époque-là, est en plein affermissement de son pouvoir. Je vous rappelle que c'est la période des croisades. Pour le coup, les vraies croisades, celles qui sont parties au Proche-Orient pour construire les États latins, à partir de la fin du XIe siècle. Tout cela, en effet, fait que vont converger des forces qui vont faire qu'on va vouloir se débarrasser de cette agitation indépendantiste qui dans le sud-est du royaume, auquel s'ajoute dernier des paramètres, c'est que ces sociétés cathares qui se développent sont totalement un modèle social anti-économique pour le Moyen-Âge. On laisse tomber les corvées qu'on doit au seigneur, etc. Tout le système féodal est complètement remis en cause autour d'une vie d'hommes et de femmes qui se considèrent comme des égaux et qui vivent pauvrement et surtout qui sont complètement indépendants au niveau des fermes qu'ils vont développer et de la petite économie qu'ils vont développer. Alors tout ça pose vraiment beaucoup de problèmes et les facteurs donc, vous le voyez, religieux, politiques et économiques vont se retrouver cette fois-ci dans proclamation de la croisade, cette fois-ci contre les cathares. C'est la première fois. On est le 10 mars 1208. 10 mars 1208, on est où dans le temps, dans le tempus européen de l'époque? Là, on est juste après la quatrième croisade, celle de 1204, qui avait été détournée, rappelez-vous, pour s'emparer de l'empire grec byzantin, qui était complètement décadent, et la création d'un empire latin. On est donc dans une période où peut-être on va chercher à redorer le blason de l'image de la croisade, car cette croisade de 1204, cette prise de Constantinople en 1204, a été considérée dans la chrétienté comme un véritable scandale. Que des catholiques et des orthodoxes s'affrontent, c'était complètement invraisemblable, alors que les États latins commençaient à se sentir de moins en moins bien depuis la prise de Jérusalem en 1099, je vous le rappelle. Alors, le 14 janvier, il y a un casus belli, en 1208, c'est que le légat du pape, Pierre de Castelnau, qui avait été envoyé, dans les légats, c'est un envoyé du pape, c'est une sorte d'ambassadeur, auprès de Raymond VI de Toulouse, le très puissant comte de Toulouse, qui était tout à fait indépendant du roi, qui remettait bien sûr un hommage vassalique, mais qui était quand même un personnage indépendant. Eh bien, et voire très indépendant, puisque vautré, on pourrait nous dire, dans l'hérésie cathare, tout ça entre guillemets, bien sûr, un écuyer du comte de Toulouse, Raymond VI, va assassiner tout simplement Pierre de Castelnau. C'est le 14 janvier 1208. À cette époque-là, on ne plaisante pas avec ce genre de provocation. Dès le 10 mars, à peine 3 mois plus tard, le pape Innocent III proclame la croisade contre les cathares. Et là, ça va être terrible, puisque je vous l'ai dit, trois facteurs sont réunis pour fondre, si on peut dire, sur ce sud-est, sur cette région de Narbonne, sur cette région de Béziers, cette région de Toulouse, on va voir tout ça en détail, pour mettre un terme à ce mouvement. Et tout ça, ça va commencer en 1209, ça va être les débuts de cette expédition qui va descendre vers le sud-ouest, et avec un premier point d'orgue, un point d'entrée qui est le 22 juillet 1209, et qui sera, comme vous le savez, le fameux massacre de Béziers. Les troupes de Raymond de Toulouse, mais de Simon de Montfort, pardon, dans Toulouse, c'est au contraire le personnage dont on a parlé dans il y a un instant, de Simon de Montfort, l'armée croisée. Si on peut appeler ça une croisade, là encore il s'agit quand même de catholiques du nord qui descendent pour tuer des chrétiens, car les cathares se considèrent comme des chrétiens ascétiques certes, des chrétiens qui se veulent libres et totalement indépendants de tous les systèmes médiévaux de l'époque, mais des chrétiens quand même. Et cette armée se présente le 22 juillet 1209 devant Béziers, et évidemment c'est la ville, les villes sont fortifiées à l'époque, hein, et bien sûr c'est de se dire, là, rendez-vous quoi. Alors, les Biterrois, puisque c'est comme ça que nous appelons les habitants de Béziers, jurent qu'il n'y a aucun cathare, hein, que la ville est ouverte, qu'il n'y a pas de raison, comment dire, d'aller punir cette cité, hein. Et c'est là que la fameuse phrase terrible sera prononcée: tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. Il va quand même y avoir sur le carreau de Béziers, après le passage des troupes de Simon Montfort, 20 000 morts. 20 000 morts, croyez-moi, même pour le Moyen-Âge, même pour le début du XIIIe siècle, c'est quand même considérable. Et puis, ça va être, alors, effectivement, dans tout ce sud-ouest, une véritable balade, si on peut dire, de cette armée de croisés. Une fois que Béziers a succombé après ce massacre épouvantable, c'est le tour de Narbonne. Et puis on va pousser vers l'ouest jusque la cité fortifiée de Carcassonne. 15 août 1209, c'est le siège et la capitulation de Carcassonne, hein, avec évidemment son nombre de morts, comme vous l'imaginez. Carcassonne est au centre du dispositif, et à partir de là, évidemment, les troupes des croisés vont se répandre dans toute la région, prenant les châteaux cathares, les uns après les autres, les cités fortifiées cathares qui tomberont toutes les unes après les autres, pour une croisade qui, dans sa durée extrême, va durer de 1209 à 1244. C'est quand même une guerre civile qui va durer pendant un peu plus de 30 ans. C'est quand même tout à fait impressionnant, plus de 30 ans. Puisque ça se termine, et je l'ai gardé évidemment pour la fin, par la prise de Montségur en 1244, siège et capitulation de Raymond de Péreil à Montségur. 1244, 205 ultimes résistants cathares sont alors capturés par l'Inquisition et brûlés. À cette époque-là, on ne faisait pas dans la dentelle. Dès que vous vous écartiez de la société religieuse de l'époque extrêmement conservatrice et étatique, chrétienne de l'époque, eh bien, vous étiez immédiatement condamné comme sorcier, sorcière, écartelé, brûlé vif, etc., etc. Alors, cela nous mène évidemment à nous diriger vers une petite conclusion, puisque l'émission est la dernière de l'année, nous allons nous diriger maintenant vers la pause estivale. Mais c'est de se dire effectivement, et c'est en partie ce que Maurice Magre écrira, c'est de voir un peu pourquoi cette région des Pyrénées, et surtout cette région-là, a été à ce point, l'objet de toutes les attentions, d'une telle focalisation jusqu'à encore aujourd'hui. Tout simplement, et ça c'est l'histoire qui nous le dit, en 476, comme vous le savez, c'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Rome est pillée définitivement par les Visigoths, les fameux Visigoths qui, comme vous le savez, vont se fixer ensuite sur, évidemment, une bonne partie des Pyrénées, sur des villes comme Carcassonne, comme Narbonne, etc. Et les Visigoths passent pour, notamment Alaric, pour avoir pillé, notamment à Rome, le fameux trésor du temple de Saturne, dans lequel se trouvaient tous les trésors, tout ce que la République et l'Empire ensuite avaient ramené de ces différentes conquêtes. Et nous savons, Nous le savons parce que sur les arcs de triomphe, notamment sur l'arc de triomphe de Titus, hein, dans le forum républicain à Rome, eh bien qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit eh bien, le pillage du grand temple de Salomon, hein, donc de la menorah, etc., de tout un tas d'objets rituéliques qui, si on les retrouvait aujourd'hui, seraient totalement inestimables. Vous l'imaginez bien. Et ces objets, donc, récupérés par les Romains et planqués, hein, dans ce temple de Saturne où se trouvait le trésor. Et de là, bien sûr, à s'imaginer que au début du 1er siècle de notre ère, on en ait profité aussi pour récupérer quelques artefacts, de la secte, entre guillemets, ce qu'on appelait une secte chrétienne de l'époque, hein, et pourquoi pas le Saint Graal, et bien de là, il n'y a qu'un pas, hein, que pas mal de chercheurs font, et qui expliquerait effectivement tout l'intérêt, l'attrait que cette région pourrait avoir. Alors Maurice Magre nous donne quelques clés dans ce livre de 1935, mais l'intérêt de tout cela, c'est qu'on baigne quand même, il faut le savoir, dans une vaste légende, dont les points saillants sont l'affaire de Raid-le-Château, je n'y reviens pas, sont tout un tas d'autres légendes qui affleurent dans la région. Mais cependant, quand on reste serein et que l'on cherche à réfléchir sur tout cela, on se dit qu'il y a quand même, en effet, des signes historiques, hein, millénaires, hein, quand on regarde un peu l'histoire, qui tendraient à confirmer, hein, la plupart de ces théories. En cette veille de l'été 2018, et je vous laisse donc rêver au travers de cette petite émission sur Maurice Magre, à la possibilité que justement beaucoup de choses restent à découvrir dans ces fameux Pyrénées, dans ces fameux châteaux cathares. Beaucoup de choses à découvrir, quoi, évidemment, je l'ignore, sinon il n'y aurait aucune poésie, hein, dans quelconque quête. Mais j'espère que cette émission et beaucoup d'autres que j'ai pu faire auront pu vous donner le goût, en tout cas, du mystère et de chercher à résoudre un certain nombre de choses mystérieuses. Parce que cette émission est la dernière du cycle, mais aussi la dernière sur Radio Terra Zen. Je reviendrai en accord avec Cédric de façon sporadique sur certaines émissions, mais en effet cette émission mensuelle se termine. On n'a pas épuisé tous les sujets, mais je pense aussi qu'il est temps de faire une petite pause pour pouvoir mieux revenir encore après. C'était Histoire du soir avec Olivier sur la web radio Terra Zen. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. Et je vous dis à un de ces jours, sans doute. Au revoir. Thank you.